le magazine des Nations Unies.
Il n'y a pas de solution dans la crise politique congolaise. La seule solution, c'est le dialogue inclusif. Parole du secrétaire général des Nations Unies lors de son séjour en RDC. Ban Ki-moon exhorte les Congolais aux vertus du dialogue pour sortir le pays de l'impasse politique actuelle. D'autres aspects s'avissant en RDC, c'est dans cette édition. Le processus Baraza pour réconcilier Pygmée et Luba fait du chemin dans le Tanganyika. L'implication de la MONUSCO et tous les partenaires avec un responsable des affaires civiles de la mission. Et puis le 9e bataillon des casquets bleus du contingent béninois s'en va. Il sera remplacé par le 10e du même contingent. Là, nous sommes à Kalemi. Le commandant de ces bataillons est notre invité. Avec lui, nous prenons les bilans des activités de ce bataillon dans la sécurisation des populations civiles. Enfin, je propose d'écouter ceci. Vous l'avez deviné sans doute, Radio Kati souffle sur ses 14 bougies. Coup de projecteur sur l'événement dans un instant.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Ouvrons ce magazine par la visite du secrétaire général de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies a séjourné en RDC du 23 au 25 février. Un séjour riche en activités et qu'on peut percevoir sur trois angles. N'est-ce pas Jean-Pierre Elali Coco? Bonjour.
Bonjour Tina. Et oui, justement, M. Ban Ki-moon s'est livré à une intense activité, d'abord à Goma, sur le plan humanitaire et sécuritaire. L'hôte des marques de la RDC a visité les camps de placé des Kichanga, c'est à 90 km au nord-ouest de la ville de Goma. Sur place, les déplacés et l'autorité locale lui ont exprimé leurs attentes et préoccupations, suivant quelques-unes dites par l'administrateur assistant de Masisi. C'était au micro de Christian Mapendano.
Ce que nous attendons de lui d'abord, c'est pour palper la réalité du terrain. Et ce que nous attendons aussi, c'est aussi par rapport à tous les groupes armés qui sont dans notre entité. Il y a aussi les déplacés qui sont éparpillés partout ici. Vous savez, dans la chefferie de Bachali, nous venons de totaliser au moins 11 camps de déplacés. Sur toute l'étendue du territoire, nous sommes dans les 22 camps de déplacés. Parce qu'à notre avis, nous ne voulons pas qu'il y ait encore des camps de déplacés. Nous voulons que les gens retournent dans leur milieu d'origine. Et ce que nous attendons de lui, c'est pour nous aider que la MONUSCO qui est avec nous ici puisse pénétrer en fait de vie. Parce que la MONUSCO se limite seulement tout au long de la route ici, à la route principale. Si vous y entrez aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a une population qui souffre. Ici, dans les chefferies de Bachar. Partout là-bas, à l'heure où je te parle, il y a les groupes armés qui sont en train de s'organiser là-bas.
Sur le plan économique, cette fois-ci à Kinshasa, Ban Ki-moon a participé le 24 février à l'ouverture des travaux de la conférence sur l'investissement privé dans les Grands Lacs. Dans son discours, il a plaidé pour une bonne gouvernance et pour un développement économique et social sur des bases stables en République démocratique du Congo. On l'écoute.
La région possède d'abondantes ressources naturelles. Mais on sait moins que ses habitants sont très travailleurs. La succession des conflits et des souffrances les a empêchés de réaliser leur potentiel. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. Il faut une bonne gouvernance et un état de droit. Il faut des populations en bonne santé, éduquées et dynamiques. Il faut qu'une chance soit donnée à toutes les femmes et à tous les hommes et qu'ils puissent occuper des emplois décents.
Enfin, sur le plan politique, Tina, le secrétaire général des Nations Unies a, dans une conférence de presse, exhorté la classe politique congolaise et la société civile à trouver un consensus pour organiser un dialogue inclusif.
Effectivement, j'ai rencontré le président Kabila, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, et pendant nos discussions, j'ai discuté de toutes ces questions. J'ai discuté de la façon dont les Nations Unies et le gouvernement congolais peuvent travailler ensemble pour promouvoir la paix, la sécurité, les droits de l'homme et le développement. Et comme vous l'avez indiqué, j'ai également une rencontre avec les représentants de la société civile. J'ai également une rencontre avec les dirigeants des partis d'opposition et avec les représentants de la majorité présidentielle. J'ai écouté les positions des uns et des autres. Il faut qu'il y ait un dialogue consensuel entre toutes les parties prenantes. De toutes les façons, il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est le dialogue inclusif.
Ban Ki-moon a échangé, on va le dire, Jean-Pierre Elalé séparément, avec les délégués de la société civile, ceux de la majorité présidentielle et de l'opposition politique dans toute sa diversité. Autre actualité de la semaine, ce sont les 14 ans de Radio Capi. La Radio de la Paix a vu le jour un certain 25 février 2002, date qui coïncidait avec le début des travaux du dialogue intercongolais à Sun City. Nous sommes là en Afrique du Sud. Depuis, cette radio a fait du chemin. Elle s'affiche comme la première radio de la RDC. La célébration de ses 14 ans s'est passée à Kinshasa, sans panache, autour d'un verre d'amitié. C'était au siège de la MONUSCO. Et pour le directeur de cette radio, Amadou Ba, Radio Capi est, restera au service du peuple congolais. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
Mon premier mot d'ailleurs va à l'endroit de tous les salariés de Radio Capi. Ils ont été là pour certains dès le départ, d'autres ont suivi et d'autres encore viendront. C'est ça la force de ce projet. Plus les années avancent, plus il progresse, plus il montre sa pertinence et plus il contribue à la stabilisation, à la consolidation de la paix. On a commencé par devenir une radio de la paix. On vise maintenant pour devenir une radio du développement, de l'environnement et à dynamiser la collectivité, à renforcer la citoyenneté et à participer à l'édification, au rayonnement de la République démocratique du Congo. J'ai commencé par le personnel, mais sans les auditeurs, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, c'est eux qui ont fait de cette radio ce qu'elle est. Ils participent à nos émissions. Toutes les émissions interactives, ils sont derrière. Certains d'entre eux, d'ailleurs, nous appellent l'église au milieu du village. Voilà une très belle formule qui reflète réellement que Radio Okapi, c'est à la fois le personnel, mais c'est aussi les auditeurs qui font de cette radio ce qu'elle est aujourd'hui.
Enfin, notre anniversaire, c'est celui du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement a fêté cette semaine 50 ans. Présente dans 170 pays et territoires, l'institution joue un rôle fondamental puisqu'elle est non seulement la plus grande organisation de développement du système des Nations Unies, mais elle assume en outre la coordination entre les différentes agences de l'ONU. Le PNUD se retrouve ainsi à la manœuvre pour faire aboutir d'ici 2030 les ODD ou Objectifs du Développement Durable adoptés en septembre 2015. En RDC, la célébration de ses 50 centenaires est marquée par de nombreuses activités, tant à Kinshasa que dans les provinces.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le processus de paix d'Ibaraza poursuit son bonhomme de chemin dans le territoire de Manono. Ce processus vise à réconcilier Pygmée et Louba, et ce, après une longue période de conflit. La MONUSCO ainsi que les services spécialisés de l'État se sont beaucoup investis pour la mise sur pied de ce processus. Alors comment ce processus évolue-t-il sur l'axe Mbayo-Sangué ? Réponse dans cet entretien réalisé par Expedi Mambamoubi avec Joseph Loubarika, chef de section ad intérim des affaires civiles à la MONUSCO Kalemi. Suivez.
Joseph Loubarika, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes point focal à la section des affaires civiles de la MONUSCO Kalemi. Et si nous vous avons invité ce matin, c'est pour nous parler justement du processus Baraza, un processus qui est engagé dans le territoire de Manono. Et c'est quoi exactement le processus Baraza?
S'il faut revenir au Baraza, le Baraza c'est un cadre, c'est un endroit qui réunit les membres d'une famille, les membres d'une même communauté, pour discuter, pour échanger, pour traiter leurs problèmes, leurs différends, et trouver des solutions. Ça ne demande pas l'intervention de l'État, ça demande que les gens soient ensemble, qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. En ce qui concerne le Baraza de Mbayo, c'est exactement un comité de réconciliation qui trouve des problèmes au conflit intercommunautaire qui sévit il y a quelques années dans le territoire de Manono. Je voulais préciser que le Baraza est composé de Louba et de Pygmée. Dans chaque Baraza, nous avons 14 membres, 7 Louba et 7 Pygmée.
Et puisque vous parlez de Mbayo, une délégation mixte, PNC, FARDC, MONUSCO, s'est rendue récemment en Mbayo et ce n'est pas la première fois que cette délégation se rend en Bayo. Il y a même des représentants de la société civile, de la coordination de la société civile de Manono, qui prennent part à ces voyages, à ces missions. Quel est l'objectif de ces missions-là qui ont commencé depuis déjà un certain temps et qui se poursuivent jusqu'à ce jour?
Oui, la dernière mission qui a eu lieu en Bayo avait pour objectif de suivre les activités du Baraza, d'évaluer la situation sécuritaire, mais d'évaluer aussi les conditions des retours, des personnes retournées dans la zone. Vous savez que dans quelques parties du territoire de Manono, il y a eu ces conflits, mais aujourd'hui, on est en train d'enregistrer des progrès significatifs, et à tel point qu'on peut dire qu'il y a des avancées qui prouvent que la question est en train d'être résolue comme il se doit.
Oui, justement, en ce qui concerne Mbayo, quelles sont les avancées constatées sur le lieu?
Et quand la mission est arrivée sur le terrain, on a constaté que le Baraza de Mbayo d'abord a mis en place un sous-Baraza dans le village de Sangue. Le même Baraza a rencontré le leader Pygmée Mbaïcha pour lui parler du processus de réconciliation qui est en cours. Et c'est Mbaïcha qui a permis qui a dit aux membres du Baraza de Mbayo de mettre en place ces comités. On sent d'une part que c'est un processus qui trouve l'adhésion de toutes les communautés. Mais aussi on a admiré l'implication des autorités locales, on a admiré l'implication de FARDC, parce que le Baraza de Mbayo est fortement appuyé par le FARDC en place, et ce qui est bon. Malgré qu'il y a quelques points qui demandent l'implication des autorités, l'implication de toutes les parties, mais on sent que la question est en train d'être résolue comme il se doit.
Là, vous dites que Baraza, c'est pratiquement des efforts conjugués de la part de plusieurs partenaires. Il y a d'un côté les services étatiques, de l'autre il y a la société civile et d'autre part la MONUSCO. Mais en ce qui concerne la MONUSCO, il y a beaucoup de sections substantives de la MONUSCO qui sont impliquées dans ce processus, mais pour ce qui est des affaires civiles que vous représentez ici, quel est l'apport des affaires civiles?
Oui, merci beaucoup. Je veux dire que les affaires civiles, en tant qu'une des sections de la MONUSCO, nous avons, avant l'installation de Baraza, nous avons mis en place quelques outils de protection qui ont permis, qui ont facilité une mise en place de ces Baraza. Nous avons mis les comités locaux de protection dans certaines zones pour les suivis de toutes les situations conflictuelles. Nous avons mis en place un réseau d'alerte communautaire précoce, juste pour le partage rapide des informations, des incidents liés à ces conflits. Nous avons disponibilisé des staffs affaires civiles sur le terrain qui suivent d'une façon permanente, qui appuient la société civile, qui appuient les communautés dans le processus. Notre implication est grande. Nous envisageons des sessions de formation dans la mesure du possible pour que ces Baraza aient des capacités de suivre et de résoudre les conflits dans la zone.
Pour terminer, est-ce que vous avez un message à adresser aux deux communautés ainsi qu'à l'ensemble de la population du Tanganyika?
Oui, je veux dire que les conflits intercommunautaires est l'un des facteurs qui limite le développement des populations et par conséquent de la province. J'encourage toutes les communautés à adhérer au processus de réconciliation dans les coins où les conflits sont rapportés, mais aussi tellement que la paix c'est l'affaire de tous, toutes les populations doivent s'impliquer pour que la paix soit effective, même partout où ils se trouvent, partout où il y a des conflits, et que le développement de la province soit effectif.
Joseph Lubarika, je vous remercie.
Je vous remercie.
Quelques nouvelles à présent en termes chiffrés dans l'évaluation des activités du ACR en 2016. Une mission conjointe ACR, CNR, DGM est allée évaluer la présence des réfugiés sur l'axe Badelité-Satéma, où vivent environ 4000 réfugiés centrafricains. 4874 réfugiés sud-soudanais et 2500 rapatriés congolais ont reçu l'assistance en vivre à Dungu. Nous sommes là dans la province du Haut-Touélé.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions en titre, le contingent du 9e bataillon béninois basé dans la province du Tanganyika s'en va. Une parade prise d'armes a été organisée à Kalemi quelques jours avant la fin de sa mission. Le colonel Salomon Sankron, commandant de ce bataillon, évoque la collaboration du contingent avec les FARDC, également l'appui au processus de restauration de l'autorité de l'État à travers des projets à impact rapide. Il s'entretient avec Amoury Aleka.
Colonel Salomon Sankron, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous étiez commandant secteur du Katanga et commandant du contingent béninois.
C'est exact.
Aujourd'hui, mon colonel, vous êtes en fin de mission. Pouvez-vous nous dresser un bilan de votre action ici, au Katanga?
Et parlant de bilan, je voudrais d'abord l'inscrire dans le bilan de la force. Car le secteur fait partie intégrante de la force, donc notre bilan fait partie de la force. Un bilan qui découle de la mise en application donc des directives et des ordres du commandant de la force, de manière plus particulière de la résolution 2211 de mars 2015. Ceci dit, le premier bilan qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le règlement, pour ne pas dire la résolution, du conflit communautaire à Niouzou. Et comme vous le savez, au cours des mois de mars, avril, mai et juin 2015, ce conflit a pris une ampleur qui était telle qu'il fallait agir rapidement, promptement. Alors face à cela, le secteur que je commandais a décidé de déployer un détachement temporaire à Niouzou. Et ce détachement est déployé dans des conditions vraiment difficiles, parce que le Ben Bat 9 venait à peine d'arriver sur le théâtre. Mais seul, on ne pouvait pas, vu l'envergure du travail de la zone de conflit, on est rentré en négociation, en coopération avec nos frères d'armes FARDC, avec la police nationale congolaise et les chefs des états-majors FARDC, aussi bien le major général commandant la 2e zone de défense avec le général de brigade commandant la 22e région militaire. Ils ont décidé de renforcer leur position qui est à Niouzou, et un renfort qui a été vraiment significatif. La police nationale congolaise aussi a procédé à ce même renfort, et cela a facilité donc le travail sur le terrain. Donc,
parlant de précisément, mon colonel, de cette collaboration, et comment entrevoyez-vous les relations entre la MONUSCO et les FARDC, ici précisément dans les grands Katanga de l'époque, et plus précisément dans les zones de conflit telles que vous étiez en train de parler, de Niouzou?
Oui, et la coopération avec les FARDC, et vous voyez, et c'est là l'un des piliers de notre travail, parce que nous sommes en appui au FARDC et nous devons travailler en collaboration avec eux, et c'est ce que nous avons toujours fait dans le Katanga. Je vais vous donner plusieurs exemples. Et parlant déjà de Niouzou, vous voyez, nous avons essayé ensemble avec les FARDC de désarmer les mains. C'est ce qu'on a fait en déployant nos forces sur le terrain. Les mains qui tenaient des flèches parfois empoisonnées, on les a désarmées. Et ensemble, on a essayé de désarmer également les cœurs. On a désarmé les cœurs en faisant quoi? En initiant sur le terrain et des commissions de médiation. On a commencé dans le territoire de Niouzou, et pour éviter que le conflit ne se généralise et prenne d'ampleur dans le territoire voisin de Manono, on a donc continué cette action dans le territoire de Manono, et pour pérenniser nos efforts sur le terrain. Et cette commission de médiation, c'est une commission pluridisciplinaire qui regroupe à la fois les FARDC, les PNC, qui regroupe également les autorités politico-administratives, la force à travers le secteur et le Ben Bat 9, mais également les acteurs humanitaires, les agences des Nations Unies, les ONG internationales. Cela a permis de rassurer les populations pour que les populations, les nombreux déplacés, puissent retourner dans leur localité. Et cela a permis l'intensification de l'action humanitaire et la promotion du développement à la base. Mais également, notre action avec les FARDC ne se sont pas limitées à ce point. Et avec les FARDC, vous savez bien que j'ai entamé une tournée avec le général major Kifoua. On a visité toutes nos positions et je pense que cette tournée inédite nous a permis d'aller au contact des populations, au contact de nos troupes, quels soient les casques bleus ou bien les FARDC, au contact également des autorités politico-administratives.
Et donc, c'est-à-dire que c'est un bilan largement positif, mon colonel.
Et vous voyez, je ne voudrais pas qualifier le bilan, je veux que les faits sur le terrain parlent d'eux-mêmes.
Et je parlais tantôt de la fin de votre mission en RDC et quels sont ces sentiments qui vous animent.
Et vous voyez, plusieurs sentiments m'animent, mais le premier des sentiments, c'est d'abord un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance pour l'accueil, pour l'hospitalité légendaire du peuple de Katanga et surtout de mes frères d'armes FARDC. Et c'est aussi un sentiment de confiance parce que je reste confiant que ce qui se fait ici, non seulement au Katanga, mais dans l'ensemble du pays, ce que la MONUSCO entreprend avec les autres agences des Nations Unies, avec les institutions congolaises, que ce soit les institutions, les forces de défense et de sécurité ou les autres institutions, avec les populations à la base, je suis certain que tout cela portera du fruit et que ce pays, la RDC, parce qu'il faut le dire, c'est le poumon de l'Afrique, je l'appelle moi le coffre-fort de l'Afrique, vu l'immensité de ses ressources. Et je suis certain que avec ce qui est entrepris, ce pays retrouvera la paix et retrouvera sa stabilité.
Colonel Salomon Zankrane, merci.
Merci à vous aussi. Merci infiniment.
Lancement du plan de réponse humanitaire PRH pour l'année 2016, jeudi 18 février à Kindu dans la province du Maniema. Il a été question des besoins qui se sont annoncés depuis la fin de l'année 2015 et qui sont restés pendants. Cependant, la prévision de plus de 410 000 personnes vulnérables pour 2016 n'est pas exhaustive pour 39 millions de dollars requis pour 2016. Reportage Mathieu Ilunga Champoui.
Le Maniema est en proie de plusieurs phénomènes, dont les catastrophes naturelles, notamment des pluies torrentielles. Il y a aussi des conflits coutumiers et fonciers, des épidémies telles que la rougeole et le choléra, sans oublier les déplacements massifs internes des populations et l'afflux de réfugiés burundais dans la région. Voilà de grands problèmes humanitaires rencontrés l'année dernière et qui sont encore d'actualité dans cette province de la RDC, spécialement au sud du Maniema, à Kindu, Kailo et à Kalima, ont tour à tour souligné dans leurs exposés le représentant des ONG travaillant dans l'humanitaire, le ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales et Actions humanitaires. François Mboli, sous-bureau au Tchassé-Place à Kindu.
Le plan de réponse 2016 a besoin, en ce qui concerne le Maniema, 39 millions de dollars pour venir en aide à environ 410 000 personnes vulnérables en 2016. En moyenne, 3 000 personnes par jour ont été obligées de se déplacer en 2015 en RDC, dont 222 personnes par jour se sont déplacées à la province du Maniema à cause des conflits armés, des inondations, des intempéries ont affecté environ plus de 65 000 au Maniema.
Le gouverneur du Maniema, qui a lancé ce plan, a promis de diriger les deux premières réunions prochaines consacrées aux réponses à donner à ces problèmes et qu'il va s'impliquer pour le suivi. Il confirme que la province a besoin d'un montant global de plus de 39 millions de dollars pour répondre aux différents besoins humanitaires. Pascal Toutsalumu, chef de l'exécutif provincial.
Les besoins sont toujours illimités face aux moyens disponibles. Déjà, pour trouver et réunir les 39 millions de dollars requis pour prendre en charge les personnes vulnérables dans la province du Maniema, il faut beaucoup travailler.
Voilà le travail du cadre de concertation humanitaire qui a permis d'harmoniser des points de vue des partenaires humanitaires et autorités publiques malgré la persistance des divergences. Kindu, Mathieu Ilunga Chambou, Manachebe, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche est relative à la conférence humanitaire internationale au sommet mondial qui sera organisée à Istanbul en Turquie du 24 au 25 mai prochain. Elle a été posée à Monsieur Ban Ki-moon au cours de sa conférence de presse le 24 février dernier à Kinshasa. Suivez.
Merci, c'est Mathieu Moussaou pour le journal Forum des As. Monsieur Ban Ki-moon, vous avez évoqué tout à l'heure l'organisation de la conférence internationale humanitaire en mai prochain. Après avoir été à Kichanga et vous connaissez la réalité des déplacés de la République démocratique du Congo, comment comptez-vous pousser, si je peux le dire ainsi, des bailleurs de fonds à répondre favorablement dans les temps pour apporter leur contribution afin de mettre en application le plan d'action humanitaire qui a été lancé le mois dernier. Merci.
En tant que secrétaire général, je me suis rendu dans de nombreux camps de réfugiés et également dans des camps de déplacés dans le monde entier. L'expérience que j'ai vécue hier dans la région de Goma, mon expérience a été une expérience qui m'a amené véritablement vers l'humilité. J'ai rencontré des milliers de personnes déplacées, en particulier des enfants et des femmes qui vivent dans des camps pour personnes déplacées. Vous savez probablement que le nombre de personnes déplacées et que le nombre de réfugiés de par le monde est d'environ 60 millions de personnes. C'est véritablement un chiffre sans précédent. C'est le chiffre le plus élevé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'on peut dire que l'on est arrivé à une situation qui est très difficilement gérable. Les Nations Unies ont essayé véritablement de fournir une assistance humanitaire quotidienne pour sauver des vies. Ce que l'on peut dire, c'est que la réponse aux besoins humanitaires, la réaction, elle, est de moins en moins importante. Et nous ne pouvons plus continuer de cette façon. Il faut véritablement fournir une assistance humanitaire quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, pour la première fois en 70 ans, nous avons décidé de convoquer un sommet humanitaire mondial. Ce sommet va se tenir à Istanbul le 23 et le 24 mai.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Oui, je m'appelle Nicole Kongoroupout. Dans la vie, je suis d'abord mère de famille avant d'être HR assistant. Oui, je suis mariée. J'ai 3 enfants. 2 garçons et une fille. Voilà, j'ai fait les études secondaires de biochimie au lycée Kabambar à Kinshasa. Et puis de là, j'ai fait l'université protestante au Congo en administration des affaires. Directement après, bon, comme au Congo, il n'y a pas d'emploi direct, donc j'ai chômé une année. Et puis j'ai travaillé 2 ans et demi à DHL International Congo à Kinshasa. À DHL, j'étais agent service clientèle et je m'occupais de la réception des courriers, la gestion des clients, des réclamations des clients et le tracking au niveau du réseau de DHL. J'ai eu le poste à la MONUC à l'époque. Dans la mission des Nations Unies, c'était en 2005. Bon, nous avons postulé. J'ai postulé à un poste qui était publié comme on le fait actuellement. Et j'ai eu la chance d'être retenu. J'ai passé le test, l'interview. Et voilà, dès qu'on m'a dit que c'était bon, donc j'ai dû démissionner au niveau de DHL et j'ai commencé à la MONUC à l'époque. Oui, nous sommes à Bounia. Oui, nous avons commencé à Kinshasa. Et après, donc disons à Bounia, je suis là depuis 2014. Voilà, aux ressources humaines, je m'occupe essentiellement de la gestion des staffs. Quand je dis gestion des staffs, donc de leur recrutement jusqu'à leur séparation, ça veut dire dès qu'on publie les postes, on fait tout ce qu'il faut comme un processus de recrutement. C'est nous qui établissons les contrats et puis nous gérons le staff, donc disons tout ce qui est allocation des staffs, tout ce qui est oui, disons, c'est chaque jour le même rythme. Dès qu'on arrive, la première des choses, ça veut dire qu'on lit d'abord les mails qu'on reçoit. Et puis, nous recevons aussi les staffs. Donc, disons que c'est la routine, mais nous faisons exactement tout ce qui est recrutement, gestion des staffs, gestion des présences, des problèmes, des séparations. Donc, c'est globalement tout ce qui est HR, quoi. Oui, c'est vrai que Bounia, c'était l'inconnu pour moi, mais j'ai dû venir avant de venir m'installer définitivement. J'ai dû venir découvrir ce qu'était Bounia. Mais au niveau du travail, je ne me suis pas dépaysée puisque c'est exactement le même travail que je faisais à Kinshasa. Donc, je gère toujours les staffs à Bounia et bon... Bounia, c'est pas un village, hein, donc on s'habitue. Au niveau professionnel, au niveau de UN, si je dois rester dans les Nations Unies, j'aimerais bien avoir cette expérience de travailler à l'international, dans une autre mission par exemple. Mais au niveau personnel, j'aimerais plutôt créer ma propre entreprise. Moi, j'aime bien manger le riz chaud, bien chaud, avec le poudre. La marche et les karatés. Les karatés, c'est plus qu'à un moment, j'ai eu à pratiquer quand même un peu de karaté. Bon, c'était juste la découverte, hein. Bon, c'est un sport, c'est plus la découverte, mais c'est aussi pour avoir de l'exercice, c'est tout. Moi, j'aime la musique chrétienne en général. Oui, je suis choriste. Même ici à Bounia, je chante, je suis choriste à mon église. Le gosse Réma. Dans mes temps perdus, j'aime bien sortir dans la nature, détendre à l'air libre, quoi, voilà. Avec des amis, avec les enfants des fois, et j'aime beaucoup rire, ça me détend. Non, c'est bien.
Merci Nicole.
Je vous en prie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Retenez ce rendez-vous dans votre agenda. Le mardi 1er mars prochain, c'est la journée discrimination zéro. L'équipe du magazine se mobilise pour couvrir les activités de l'ONU SIDA sur cette journée. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette émission magazine des Nations Unies, coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco, qui est également au reportage. À la supervision, Martin Sebujangwe, Tina Salama à la présentation. Merci de le retrouver sur notre site internet, www.radiocapu.net. On n'oublie pas Mimi Kindou qui était à la mise en onde. On se dit à très bientôt. Bon dimanche chez vous. Ciao.